Aujourd'hui, c'est une double fête, le Christ roi de l'univers, et aussi c'est le jour de la présentation de Marie au Temple, dont on fait mémoire aussi, en sourdine forcément, mais de même que la présentation du projet de l'Immaculée est en sourdine à l'incarnation du Verbe. En tout cas, concentrons-nous sur la fête du Christ roi de l'univers, dont Marie est l'introduction dans notre monde. On le voit dans ce texte-là, et dans d'autres textes d'ailleurs, chez saint Jean, que Jésus accepte le titre de roi. Et il accepte ce titre, c'est Nathanaël qui commence tout au début de l'évangile, « Tu es le Christ, tu es le roi d'Israël ». Et puis ensuite, au long de l'évangile, eh bien, il y a d'abord un passage avorté où Jésus refuse ce titre de roi après la multiplication des pains. Et il l'accepte à nouveau de la part de la foule des disciples au moment de l'entrée triomphale à Jérusalem. Et ça le conduit tout droit devant Pilate avec cette question « Es-tu le roi des Juifs ?» C'est le roi d'Israël, c'est un autre titre pour dire le Messie, mais le Messie, ça renvoie plutôt à la figure de Moïse, et le titre roi d'Israël, un titre messianique aussi, renvoie eh bien, à la royauté davidique, à David qui est le roi alors politique mais aussi religieux d'Israël, donc qui unit les deux aspects, comme Moïse avant lui. Donc, il y a la version profane, c'est celle de Pilate, tu es le roi des Juifs. Les Juifs, c'est des hommes qui historiquement composent la nation au moment où les faits se réalisent, tandis que Jésus insiste, enfin l'évangile de Jean insiste bien sur l'expression « roi d'Israël », c'est-à-dire quelque chose qui est intemporel, qui est transcendant évidemment. La royauté, c'est ce qu'il explique à Pilate, « ma royauté n'est pas de ce monde, ma royauté, elle est fondée sur la vérité ». Je ne suis venu dans le monde que pour une chose, rendre témoignage à la vérité. Et pendant toute la Passion, eh bien, Pilate revient sur cette royauté, mais il revient toujours sur la royauté qui est caricaturée. Il la compare à celle des rois de ce monde, à celle de César, d'où sa réponse. La vérité, mais qu'est-ce que la vérité? C'est le roi de carnaval. Jésus est transformé, lui et sa royauté sont transformés en caricature pour faire rire et pour en même temps permettre à la violence de ce monde de s'acharner sur lui, car le propre du pécheur, c'est de renvoyer à l'autre son péché, de ne pas le reconnaître pour lui-même. Le roi de carnaval, par rapport au thème de la puissance, César et même simplement Pilate, qui a tous les pouvoirs de l'empereur, le pouvoir de vie et de mort, du moment qu'on n'est pas citoyen romain, pouvoir de vie et de mort. Mais de fait, il va condamner un innocent en sachant qu'il est innocent. La royauté rejetée, voilà ce que c'est que la passion du Christ, tout à la fois par les chefs du peuple et par les païens, les soldats et bien sûr Pilate. La vérité vous rendra libre, avait dit Jésus. Et ça, il le maintient jusqu'au bout. Il reste dans la vérité du Père, dans la vérité de l'Esprit. Il n'essaye pas de passer au travers. C'est le thème de la fidélité absolue, puisqu'il incarne, il est en lui-même la vérité, le chemin et la vie. Donc, la vérité, c'est la force transcendante même du Christ roi, celle qui communique aux croyants, qui nous communique. Et nous ne devons pas répondre comme Pilate, nous devons répondre, eh bien, évidemment, que c'est lui la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Ça, c'est un cri qui résonne à travers toute l'histoire. C'est toujours l'occasion du jugement quotidien de chaque homme en ce monde. Lorsque la vérité frappe à la porte, et elle frappe à tout propos, on va le voir bientôt, eh bien, les hommes sont tenus de prendre position par rapport à elle. La vérité, être de la vérité, nous dit saint Jean. Là, la traduction appartenir à la vérité. Mais être de la vérité, ça veut dire, ça ne veut pas dire la posséder complètement. Il se peut même que, comme Pilate, on ne la possède pas du tout. Mais Jésus tend la perche. Ça veut dire être à la recherche de la vérité. Et ça suffit à Dieu, ça. Des êtres en recherche de la vérité, eh bien, parviennent aux fruits de leur recherche, aux fruits de leur labeur, à déguster la vérité. Et ils arrivent jusqu'à Jésus lui-même. Ils écoutent sa voix. C'est une recherche philosophique. On ne commence pas par une recherche religieuse. Ce serait écouter la voix de Jésus, la recherche religieuse. Non, avant la recherche religieuse, il y a d'abord une recherche de vérité, qu'on appelle philosophique, pour lui donner un nom. La recherche de la vérité. Tout homme, ça c'est le devoir de tout homme en ce monde, et tout homme sera jugé par le Christ roi sur cela. Et pas sur ce qu'il ne connaissait pas de la vérité. Jésus, c'est ça qui est beau, c'est un roi miséricordieux, mais en même temps un roi exigeant. Il est sorti, là, il y a un mois à peu près, un très bon livre que je vous recommande, qui s'intitule « Dieu, la science et l'épreuve ». Dieu, la science, l'épreuve. C'est de Bonacieux et de Bolloré, deux auteurs. Il y a deux parties dans le livre. Il y a une partie consacrée aux preuves de la science en faveur de Dieu. Et la seconde partie, bah, c'est les preuves religieuses, c'est une réflexion sur la Bible et sur son déploiement. Mais qui prouve Dieu, s'entend. Il cherche des preuves, l'auteur. Ce qui est beau, en tout cas pour la première partie, pour ceux qui ne sont pas très doués au niveau culture scientifique, eh bien c'est un excellent livre à lire, parce que vraiment, il est d'une simplicité lumineuse. Et il nous montre, il a ce mérite-là, entre autres, bon, déjà de nous mettre devant le grand mystère de la création, donc la science a découvert, mais il n'y a pas longtemps, ça commence, depuis les années 50 à peu près, vous vous rendez compte, a pu prouver que l'univers avait un commencement. Alors la théorie remonte un peu plus loin, mais la preuve, elle remonte aux années 50. Et un commencement, c'est le Big Bang, mais qui suppose évidemment un déclencheur, un être, quelqu'un, en dehors de la matière, qui déclenche cela. C'est le Christ roi de l'univers. Et celui que nous adorons sous cette appellation-là. Ensuite, il y a cet univers qui, comme c'est décrit un peu comme une explosion, en tout cas un mouvement, on s'aperçoit effectivement que toutes nos galaxies qui recèlent toutes les planètes et les étoiles que nous connaissons, ou pouvons voir ou supposer voir, est en mouvement. Ça, les incroyants bloquent aussi là-dessus. Ils ont maintenant, ça y est, on en a la preuve, on l'a observé. Einstein, pourtant très doué, a d'abord refusé l'idée d'un univers en mouvement qui se déplaçait, et même en s'accélérant. Il refusait ça parce qu'il c'était un athée, Einstein. Et il est arrivé par l'observation de la nature au déisme. Bon, c'est-à-dire à ceux qui considèrent qu'il doit bien y avoir quelque chose dans l'au-delà, quelqu'un qui préside sans savoir qui c'est. Voilà, ça c'est le déisme. Mais c'est Voltaire, mais c'est déjà quelque chose par rapport à l'athéisme pur et dur. Les athées, eux, veulent considérer que l'univers est toujours stationnaire, il ne bouge pas. Et il était infini, comme disait Aristote déjà en son temps. Vous voyez, Aristote, ça remonte à 500 ans avant Jésus-Christ. Et la matière éternelle. Eh bien, maintenant, la science est capable, donc ces hommes qui ont cherché au long des âges la vérité au niveau matériel, eh bien, finalement, on y parvient. Oui, il y a bien un créateur qui préside à cette création. Et ce mouvement nous dit que, et là aussi, on s'est prouvé qu'il y a une entropie, une fin thermique de l'univers. Faute d'énergie, il aura tout consommé, il ne restera plus rien. Chaque vivant reproduit ce grand rythme-là. C'est l'image, évidemment, de la fin des temps, c'est l'image de la récapitulation du jugement et de la souveraineté divine. Toute créature, quelle qu'elle soit, vivante ou simplement cosmique, devra comparaître devant Dieu, en quelque sorte, sous son discernement. Donc c'est un livre très intéressant pour ça. Il est aussi très intéressant pour nous montrer toutes les guerres dont ces doctrines ont été à l'occasion. J'avoue que je les ignorais personnellement. Moi, j'étais un peu naïf de ce côté-là. Je me disais, quand les scientifiques découvrent quelque chose, tout le monde suit, en particulier les scientifiques eux-mêmes. Pas du tout. Quand on a commencé à s'interroger sur un univers qui n'était pas éternel et qui avait un commencement, ils ont été envoyés au goulag, dans les camps de concentration, pour la partie communiste et nazie. Et puis, chez nous, on a multiplié les discussions. Les athées ont vraiment réagi profondément. Dans le refus, comme Pilate. La vérité, mais qu'est-ce que la vérité? Et ça, c'est très intéressant de voir cette espèce. On touche du doigt. Vous voyez, dans un domaine où on ne s'y attend pas, cette puissance de refus qui est derrière l'homme qui s'éloigne de Dieu, qui refuse sa souveraineté. Donc c'est un livre très intéressant, ne serait-ce que pour la première partie. La seconde est très intéressante aussi, évidemment. En tant que croyant, on raisonne beaucoup plus avec la seconde, mais la première est bien faite. Une vulgarisation très simple, je le répète, qui nous entraîne dans les étoiles, et en même temps dans cet effort de l'homme pour finalement arriver au pied, d'une manière très inattendue, du Christ, roi de l'univers. Les physiciens, les astrophysiciens, etc., sont tous retrouvés devant son trône, là, alors qu'ils suivaient quelques particules et ils sont arrivés jusqu'à lui. Dieu accueille tous ceux qui recherchent la vérité, qui sont de la vérité, donc, de ce point de vue-là. Et alors, on confesse forcément son nom. En tout cas, on le confessera quand il reviendra dans la gloire, comme le dit saint Jean dans l'Apocalypse. Tout œil le verra et ceux qui l'ont transpercé se frapperont la poitrine. Le roi de l'univers est miséricordieux et il est éternel. Et l'éternité a toujours le dernier mot sur le passager. On constate que notre univers, qu'il soit humain ou matériel, le cosmos, est vraiment gouverné par la vie, par une puissance de vie. Et c'est ça, la miséricorde du Christ transparaît partout. Et se rebeller contre la vérité et contre l'amour, c'est vraiment de l'ordre du blasphème. Et les hommes qui le font, qui suivent cette pente-là, ne s'en rendent même pas compte. En revanche, le contraire, l'antithèse, c'est un monde éternellement identique à lui-même. Justement, cette vision des athées de la matière, une matière éternelle, ou alors soit cyclique, qui se reproduit sans cesse, exactement dans les mêmes schémas, c'était Platon, ça, etc., etc. Ça, c'est plutôt une image de l'enfer. Un monde qui n'est jamais en progrès, et imaginez que ce soit multiplié par l'infini, l'absence de progrès multiplié par l'infini, c'est la damnation. Alors vraiment, c'est la mort, la seconde mort dont parle Jean dans l'Apocalypse. Vraiment, prosternons-nous, adorons aujourd'hui de manière toute particulière ce roi de l'univers. La présentation de Marie au temple nous dit ce que Dieu attend de nous. Marie, c'est celle qui, par excellence, a recherché la vérité, s'est laissée porter par la vérité jusqu'à confesser le nom de Jésus.